Bonjour à tous et...
Bonjour.
Radio... Vous êtes bien sûr... Vous êtes... Radio... Super. Radio Super. Super.
Ici maintenant, c'est au bout de ma life, un événement conçu à mille mains, avec le collectif à la croisée des savoirs, le château de Goutelas, avec le soutien de Loire-Forez Agglomération. Dans le cadre de ce festival, le collectif pluridisciplinaire Carton Plein et son labo Vieillir Vivant en association avec Radio Super proposent quatre tables rondes qui saisissent chacune une problématique forte autour du vieillissement. Habitat, santé et bien-être, citoyenneté et politique sociale locale. Il s'agit donc ici, avec les acteurs du territoire Loire-Forez, d'éclairer collectivement aujourd'hui cette situation, ce qui se joue à l'échelle de notre société sur ce sujet, par la mise en valeur des initiatives locales portées par ou pour nos aînés, et surtout à l'écoute des histoires de vie singulières.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vivre avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vivant. Vivant.
Les uns apportent la spontanéité, les autres la sagesse, l'expérience qu'ils ont prise au cours de leur vie.
Les grands-parents, dans le temps, étaient toujours fatigués d'avance. Ils hésitaient plutôt à monter un escalier ou des choses comme ça. Il y avait toujours un amphithéâtre ou je ne sais pas quel truc. Nous, on ne sait pas encore ce que c'est. Du moins, on ne croit pas de savoir.
Tout au moins, il y avait une réputation d'être fatigué. Bon, on était grands-parents, donc on était fatigué.
Mais vous n'êtes pas des grands-parents fatigués?
Non.
Non, on ne voudrait surtout pas l'être. Alors, on s'est inscrit à un club de yoga. On fait depuis 7 ans du yoga et on a l'impression que ça nous fait un énorme bien. Ça nous entretient en souplesse. Et, si bien qu'on on vit avec nos petits-enfants comme si on était de leur âge. Bien sûr, avec la difficulté de l'âge. Mais... On se met à quatre pattes avec les tout petits et on discute et on fait du sport avec eux.
Bonjour à toutes et à tous. Nous venons d'écouter un extrait de 1977, figurez-vous, traitant de la relation aux grands-parents, tout droit sorti des archives de l'INA. Une belle introduction pour cette troisième table ronde qui se consacre à la place des aînés dans notre société contemporaine. Alors même s'ils et elles ne sont pas toutes et tous des grands-parents, discutons ensemble de comment les personnes âgées peuvent être valorisées comme ressources dans leur lieu et dans leur territoire de vie. Comment rester citoyen avec l'avancée en âge? Si l'écart entre générations semble principalement se creuser par la différence de culture et d'idées, les plus vieux ont souvent quelque chose de précieux à partager avec les plus jeunes. Mémoire, transmission de savoir, de savoir-faire, comment saisir ces ressources et créer des cadres de partage.
Alors pour cela, voici nos invités présents autour de la table. Nous commençons avec Jean-Baptiste Villaume, directeur du Centre social Christine Brossier à Suril-Comtal. Ce centre social est ouvert à tous les publics. Vous portez attention à la tenue d'activités autour du bien vieillir. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
En face de nous, Pauline Goutfard, bonjour. Vous êtes doctorante et psychologue sociale au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'à la chaire Santé des aînés. Vous faites partie de l'Institut Présage de l'Université Jean Bonnet de Saint-Étienne. Jean Monnet, pardon. Bonjour Agnès Bonny. Vous êtes habitante de Saï-sous-Couzan. Vous venez ici en tant que bénévole de l'association La Clé, à Saï aussi. D'ailleurs, vous êtes un peu le petit clin d'œil à la première table ronde sur l'habitat, puisque vous êtes un exemple vivant d'une création d'habitat partagé. Stéphanie, bonjour. Stéphanie Millet, vous êtes coordinatrice de la MJC du Pays d'Astrée à Boin-sur-Lignon. Vous y menez des projets intergénérationnels et des projets partagés. Et enfin, bonjour Sylvain Rioux. Vous êtes chargé de mission pour Interstice dans le département de la Loire. L'association Interstice, avec son dispositif culture et santé, soutient le développement de projets artistiques. C'est aussi une plateforme ressource pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vais commencer avec une question pour vous, Jean-Baptiste Willum. Comment favorisez-vous la place des aînés dans la vie locale et quels sont les liens entre les générations que vous développez ?
Alors, c'est vrai qu'à Suril Comtal, depuis surtout 2018, on a développé pas mal d'activités et d'actions en direction des aînés, on va dire. Et c'est vrai que nous, on essaye, un peu comme c'était dit dans l'extrait, là, de considérer les retraités, les personnes âgées, comme on considère tous les types de publics qu'on peut accueillir au centre social, c'est-à-dire d'abord comme des acteurs, des personnes ressources, des citoyens, des personnes qui vont pouvoir jouer un rôle actif. Et notamment quand on essaye de définir un peu une programmation en direction des aînés, on a alors c'est un peu vintage comme appellation, mais on a un comité des retraités qui se réunit, un peu mode syndical, et qui définit quels vont être les types de sorties, les spectacles, les activités qu'on va pouvoir proposer. Et on a un petit groupe qui, alors je dis un petit groupe, en fait on a une cinquantaine de personnes quand même qui sont amenées à donner leur avis, et puis qui sont aussi à la manœuvre pour organiser les sorties, faire les réservations, etc. À des degrés divers, mais en tout cas on est dans cette logique de participation active. Après, sur les projets qu'on conduit, donc il y a certaines activités qui sont assez classiques, donc effectivement des sorties, des spectacles, des ateliers informatiques, des choses comme ça. Moi, je voulais plutôt insister sur des projets qu'on a conduits à deux reprises autour de l'histoire locale, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un levier très intéressant justement pour que les personnes âgées, les retraités soient vues comme des ressources et non pas simplement comme un public passif. Donc nous, on a eu deux projets, mais surtout le deuxième qui m'a paru très très intéressant, c'est un projet qu'on a intitulé Raconte-moi sur Île Comtal. Et donc l'idée, c'était de faire revivre six lieux un peu emblématiques de l'histoire de Suri. Donc on a sélectionné avec les personnes. Donc par exemple, les usines de cycle. À Suri, il y a eu jusqu'à 900 ouvriers dans le domaine du cycle. Donc ça a été une activité importante. Il y avait la foire de la Saint-André, qui aujourd'hui c'est le Super U, bon c'est moins poétique, mais qui était une foire agricole très importante. Six lieux qu'on a identifiés, et l'idée c'était de faire revivre ces lieux sous la forme d'un spectacle itinérant, donc avec des comédiens, en l'occurrence des comédiens spécialisés dans l'impro, donc ça permettait aussi d'avoir un spectacle interactif. Et qui ont donc refait vivre ces lieux, mais à partir du matériau qu'on leur a fourni, c'est-à-dire des témoignages, des anecdotes que les personnes ont pu amener. Et donc ces anecdotes, ces témoignages, on les a recueillis par plusieurs biais, mais notamment par l'intermédiaire des enfants, des écoles. Donc on a 9 classes qui ont été mobilisées. Donc mine de rien, ça fait plus de 200 élèves. Qui sont devenus un peu des enquêteurs à la recherche de traces du passé et qui sont tous allés, alors ou bien tout seuls ou bien par deux ou trois, interviewer les anciens de la commune. Donc ça pouvait être aussi bien leurs grands-parents qu'un voisin âgé, voilà. Et donc tout ça, ça a permis de recueillir tout un tas de témoignages et ça a permis de faire un spectacle donc qui a été présenté en juin dernier, donc le 4 juin dernier. Avec à la fois une partie itinérante et puis à la fin un spectacle aussi très interactif sur la place de la mairie avec tout un tas d'interventions aussi d'anciens, l'historien local Jacques Clavier, 97 ans, qui aussi a pris la parole. Enfin, ça a été un moment génial, j'ai trouvé, un peu historique pour le coup dans tous les sens du terme, et avec un vrai travail de transmission où je trouve que du coup les anciens sont plus seulement vus comme des vieux aujourd'hui, mais comme des personnes qui ont une histoire, qui ont été à l'école comme nous, qui ont pu vivre des histoires d'amour, etc. Et donc moi ce que j'en ressors, c'est que l'aspect histoire locale, qui est assez peu utilisé, je trouve, dans les projets avec les anciens, les retraités, je trouve vraiment que c'est une ressource très très féconde. Donc j'incite tout le monde à utiliser cette entrée pour effectivement faire des anciens des acteurs et des ressources.
Merci beaucoup. J'espère que les écoutes ont entendu et vu ce spectacle et pourront peut-être le voir une prochaine fois aussi s'il est rejoué, s'il a été capturé. mais en tout cas, ce projet-là, il fait un petit peu écho. Donc là, c'était à Suril-Comtal, mais plus au nord, à Saï-Soukouzan. Agnès, vous développez des projets au long cours avec l'association La Clé, notamment avec des enfants, mais pas que, mais peut-être vous en parlerez bien mieux que moi, donc je vous laisse peut-être nous raconter ce qui se passe à Saïs-sous-Couzan.
Voilà, donc j'habite à Saïs-sous-Couzan depuis 10 ans, c'est le village que j'ai choisi pour ma retraite, et j'ai choisi donc avec un autre couple d'y habiter en habitat partagé, réduit puisque nous ne sommes que 4, mais tout de même, c'est la volonté d'habiter à plusieurs. J'ai rejoint l'association La Clé, culture, loisirs, économie en forêt, qui est constituée d'un certain nombre de personnes retraitées, mais pas que, nous avons aussi quelques jeunes avec nous. Et je vais quand même parler rapidement d'un projet que nous avons fait en 2017, qui rejoint un petit peu ce que vient de dire la personne à côté de moi. Nous avions, à l'occasion du 8 mars, nous sommes allés voir les femmes âgées de Saïs, les femmes uniquement, une quinzaine de femmes que nous avons interviewées et à qui nous avons proposé de faire un tableau les représentant. Donc elles ont toutes bien voulu nous raconter leur histoire. Leur histoire, la guerre, la vie à Saïs, leur travail, beaucoup ont travaillé. Et puis elles ont fait dans un cadre, elles ont mis des objets qui représentaient leur vie. Donc on a pu exposer ça à l'occasion du 8 mars. On a lu aussi leurs témoignages, on a chanté des chansons un petit peu rebelles sur les femmes, puisque je fais partie d'une chorale qui s'appelle La Rapachole et nous avons pas mal de chants de lutte. Voilà, ça c'était avec les personnes âgées. Et puis plus récemment, nous avons plusieurs projets avec l'école, et notamment comme nous réhabilitons les anciens bains, là le lieu des anciens bains, nous avons avec les enfants du RPI fabriqué des carreaux de ciment que les enfants ont décorés, et nous avons fait avec eux. Là, c'est vrai qu'il y a eu le moment du Covid qui a été un peu la panique, parce que qu'est-ce qu'on allait faire? On ne pouvait plus... on a réussi quand même à continuer en extérieur avec les masques et on a pu réaliser une fresque au sol, donc avec les enfants de l'école. Voilà. C'est une belle expérience.
Merci aussi. Et donc, tant de projets intergénérationnels sur le territoire, du nord au sud. Pauline Goodfard, on vous a invité ici et vous êtes chercheuse en psychologie avec la question de la place des aînés et l'âgisme un petit peu au cœur de votre travail. Quelle est votre analyse sur la place des personnes âgées dans la vie locale et dans la société?
Merci. En tant que chercheur, on se pose beaucoup de questions et en fait, moi je me pose la question de pourquoi finalement on se pose la question comment valoriser la place des personnes âgées dans la société, parce que dans le monde idéal on se poserait pas cette question là mais si on a une nécessité de questionner la valorisation de la place de la personne âgée dans la société, c'est que en France notamment et dans les sociétés occidentales, nous sommes plus âgistes que dans d'autres pays, et en France nous sommes plus âgistes que dans d'autres pays d'Europe. Alors le mot âgisme, déjà il est peu connu. Tout le monde sait ce que c'est le sexisme, le racisme. Et finalement, l'âgisme, jusqu'à présent, est encore peu connu. Pourtant, c'est une forme de discrimination qui est inscrite dans le code pénal au même titre que les autres formes de discrimination. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'étudie les expériences d'âgisme et les relations entre les générations par le prisme de la culture. Donc, j'effectue une comparaison entre 4 pays, en France, au Cameroun, au Canada et en Belgique, pour justement distinguer les dynamiques intergénérationnelles et la place de chaque génération dans la société, et comment finalement s'inspirer des beaux projets dans les autres pays pour éventuellement valoriser davantage les personnes âgées dans notre société. Et donc cette faible valorisation des personnes âgées dans la société, elle est issue des représentations négatives du vieillissement qu'on a ici, notamment en France, mais plus globalement dans les sociétés occidentales, et qui conduisent donc à cette forme de discrimination qui est l'âgisme, qui concerne à la fois les discriminations liées à l'âge, donc pour les personnes plus jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Mais on sait que les personnes âgées sont davantage touchées par cette forme de discrimination par rapport aux plus jeunes. Et ça s'illustre par différents biais, par des biais institutionnels par exemple, comme l'agisme qui peut s'illustrer dans les soins, parce que les étonnamment, les soignants ont une vision plus négative du vieillissement que le reste de la population en fait. Donc il y a de l'agisme dans les soins, il y a également de l'agisme dans les médias. Il y a une très faible représentation de la personne âgée dans les médias, et lorsqu'elle est représentée, elle est représentée négativement. Il y a une étude américaine qui montrait que 1% des personnages de télévision sont des personnages âgés. Donc 1% c'est complètement, enfin c'est pas du tout représentatif de la réalité. Il y a d'autres études, une étude que j'aime beaucoup sur les films Disney que les enfants et les plus grands regardent souvent. Et en fait, quand on étudie les films Disney, on constate que les personnages âgés, il y en a très peu. Et quand il y en a, en fait, c'est les méchants. C'est les sorciers, c'est Picsou, etc. Et tout ça, ça conduit à donner, à venir insérer une petite graine dans nos têtes qui associe la personne âgée à la dépendance, à un poids, par exemple. Alors que finalement, tout ce qu'apporte la personne âgée dans la société est très peu montré. Donc c'est en partie pour ça qu'on se pose cette question aujourd'hui de comment valoriser la place de la personne âgée dans la société. Donc pour moi, c'est d'abord en changeant les représentations liées à la place de la personne âgée dans la société. Et donc, à titre d'exemple, il y a l'OMS qui a paru un rapport en 2020 sur les manières de lutter contre l'agisme et qui stipule qu'il y aurait trois grands leviers dans cette lutte. Donc un premier levier institutionnel où on travaillerait plutôt davantage sur les lois visant à encadrer davantage cette forme de discrimination pour protéger les aînés, parce que même si l'agisme est inscrit dans le code pénal, à contrario des autres formes de discrimination où on arrive plutôt bien à savoir dans quelle situation ça relève de la discrimination, dans l'agisme la loi elle est encore un petit peu floue à ce sujet. Le deuxième levier émis par l'OMS serait d'informer sur cette discrimination par des actions de sensibilisation comme on peut mener par exemple au Gérontopôle, donc en informant sur l'agisme et ses impacts sur la santé. Je pourrais pas tous les détailler, mais une personne victime d'agisme, c'est 7,5 années d'espérance de vie en moins en fait. Si on cumule tous les impacts sur la santé qu'a cette forme de discrimination, finalement il y a 7,5 années d'espérance de vie en moins. Et le troisième levier serait les rencontres intergénérationnelles. Donc que j'étudie particulièrement dans ma thèse, et là aussi en tant que chercheur on se pose beaucoup de questions et on n'est pas tous d'accord. Donc ce qui relève des études récentes, c'est que finalement c'est pas tellement la fréquence des rapports entre les générations qui importe, c'est-à-dire que il s'agit pas de faire de l'intergénérationnel juste pour faire de l'intergénérationnel. Ce qui compte, c'est surtout l'agréabilité perçue de ces rapports. Donc par exemple un petit enfant, il pourrait voir très régulièrement ses grands-parents, mais s'ennuyer à mourir. Il n'aurait pas pour autant une meilleure représentation du vieillissement qu'un autre enfant qui verrait moins souvent ses grands-parents, mais qui avec qui ferait des activités enrichissantes et agréables. Voilà.
Très bien, bah merci pour cet éclairage qui nous demandera de faire plus attention aux images qu'on emploie, aux mots qu'on emploie et aux relations qu'on crée avec les gens qui nous entourent pour vivre plus longtemps. Stéphanie Millet, à la MJC de Boin, l'échange de savoir et cette fameuse transmission entre générations est un petit peu au cœur de votre quotidien. Comment ce projet permet-il de changer un peu le regard des aînés, des jeunes, des gens qui participent ?
Alors, tout d'abord, l'intergénérationnel, il est à la fois dans notre projet associatif et aussi, on a depuis 2019 un espace de vie sociale où on fait des actions avec les habitants pour les habitants. Et du coup, on se rend compte, donc nous, on a des adhérents et puis on rencontre beaucoup de personnes et notamment des retraités. Et on se rend compte que ils veulent pas, enfin les personnes qu'on côtoie veulent pas forcément se retrouver entre pairs. Et ce qu'ils souhaitent, eux, c'est de rencontrer d'autres personnes. Quand on fait des sorties famille, c'est famille au sens large. Souvent, c'est des parents avec des enfants, mais il y a aussi des personnes âgées seules qui viennent et qui peuvent venir à ces sorties-là. Voilà, donc on se rend compte qu'en fait, elles ont envie de partager des choses et pas forcément voilà, qu'entre elles. Et puis, on a créé aussi différents espaces pour cette transmission de savoir. Notamment, on a un jardin partagé où on a des jardiniers bénévoles qui, on en a 5-6 vraiment actifs, et on se rend compte, en fait, c'est des personnes âgées, des personnes retraitées qui ont déjà un jardin chez eux, chez elles, mais le but, en fait, du jardin partagé, c'est pas vraiment de récolter quelque chose en commun et de récupérer les légumes, c'est vraiment le côté social, discuter ensemble, se retrouver, échanger des astuces de jardinage, des choses comme ça, en fait. Donc, du coup, on a aussi, par exemple, le Repère Café, où, pareil, c'est on a pas mal de bénévoles qui sont plutôt à la retraite et qui ont envie aussi de transmettre leur savoir parce qu'ils ont appris à bricoler et qui, voilà, on a une génération, peut-être, qui savent pas forcément bricoler, donc ils peuvent venir apporter un objet cassé. Et du coup, on a ces bénévoles qui viennent aider à bricoler avec eux et transmettre leur savoir.
Très bien, bah encore un beau projet sur le territoire. Sylvain Rioux, en tant que personne ressource, vous avez une vision des projets artistiques qui se passent sur le territoire, qui émergent. Pour vous, comment ces projets redonnent de la dignité aux personnes qui y participent et surtout aux personnes âgées, et comment ces projets les rendent citoyens de leur territoire?
Donc oui, les projets culture et santé, peut-être simplement pour situer rapidement où on se situe et d'où je parle, depuis l'association Interstice, qui est une association qui réunit des adhérents des deux secteurs, donc des établissements hospitaliers du secteur médico-social, dont des EHPAD du coup, et des établissements culturels, et qui sont un peu tous réunis autour d'une même conviction, qui est qu'on, non seulement on peut, mais qu'il est important de développer des projets culturels et artistiques dans les établissements de soins, et puis que l'idée que c'est pas parce qu'on est à un moment de sa vie privé, soit en situation de handicap, soit privé d'un accès aux différents lieux culturels de son territoire, qu'il faut pas penser les conditions pour pouvoir retisser ce lien et réussir à avoir cet accès-là, et aussi de continuer à avoir une pratique artistique au quotidien, ou en tout cas sur le temps de sa vie. Sur la question de la citoyenneté et de cette possibilité-là pour les personnes, je pense que les projets culture et santé permettent ça, peut-être premièrement parce que c'est souvent des projets qui mettent en jeu plusieurs partenariats et qui tissent du lien sur le territoire, et du coup une ouverture des établissements sur l'extérieur. Et je pense que s'engager dans cette citoyenneté passe par cette ouverture. Malgré tout, les EHPAD, si on prend que cet exemple-là, sont des lieux qui restent encore, malgré toutes les volontés de tous et toutes pour les ouvrir, mais des lieux assez cloisonnés, et ou en tout cas qui demandent à s'ouvrir, et qui, pour lesquels il y a vraiment un besoin de déconstruire aussi énormément de préjugés et de représentations sur les lieux-là. Et donc tous ces partenariats permettent tout simplement d'ouvrir, en fait, les établissements sur l'extérieur, de faire sortir les personnes, mais aussi de faire venir des personnes et des habitants du territoire à l'intérieur de ces lieux-là. Voilà, et du coup, au travers de tout ça, ce qui se joue, c'est certainement aussi l'histoire d'un changement de regard qui est possible sur les personnes hospitalisées ou accompagnées dans les EHPAD. Et ce changement de regard, il est vraiment vraiment important. Et nous, c'est sur les effets produits par ces projets-là dans les établissements, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, dont nous font part et les résidents et les professionnels aussi, en nous disant que c'est vraiment, comment expliquer ça, quand l'artiste intervient dans les établissements, c'est vraiment un décalage et un pas de côté qui permet aussi de bouleverser d'une certaine manière la relation qui se joue entre les personnes, et qui vient aussi perturber la relation uniquement soignant-soigné ou accompagnant-accompagné dans ces projets-là, puisque quand on est engagé dans une aventure artistique ou au sein d'une pratique artistique, on a tous le même statut, en quelque sorte, le statut de participant, et on se retrouve réunis autour d'un même projet. Et c'est ce que disait Lynn tout à l'heure au sein de son projet, ça on le retrouve dans énormément de projets, c'est que notamment les professionnels viennent dire « Ah mais j'aurais jamais imaginé que cette personne soit capable ou puisse s'engager physiquement dans ça ou moralement, etc. » Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, qui est transversal à tous les projets, à beaucoup de projets qu'on observe, c'est ce changement de regard à la fois de la société vers les personnes et les établissements, et ce changement de regard entre les personnes dans l'établissement. Et je pense que, d'une certaine manière, la question de la citoyenneté se joue beaucoup à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose à dire qui est plus institutionnelle, mais je suis aussi là pour ça, c'est que le programme Culture et Santé, c'est un programme national qui se décline ensuite en région. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la possibilité, on a une politique publique qui accompagne les établissements pour développer ces projets-là, et donc aussi pour obtenir des financements. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Pour ce qui concerne les personnes âgées, il y a quand même la frontière établissement médicalisé, établissement non médicalisé. Bon, j'ai eu des échanges tout à l'heure avec des professionnels qui travaillent dans des résidences autonomie, par exemple, ou dans des habitats partagés, qui ne sont pas éligibles au programme, puisqu'il faut avoir un volet médicalisé, et donc avoir des financements de l'ARS pour cela. Donc c'est quand même important de le dire. Mais tous les EHPAD, notamment, sont tout à fait éligibles à ce programme-là. Et nous, Interstice, en tant qu'association, on est là pour accompagner ces professionnels-là dans l'élaboration de ces projets et la recherche de financement. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer rapidement un petit tour de table, avez-vous des projets inspirants à nous partager dans cet esprit de lutter contre l'âgisme, de projets intergénérationnels inspirants, artistiques, qui participent au changement de regard sur les aînés? Oui, Pauline.
Personne prend la parole. À titre d'exemple, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'initiatives sur le territoire. Dans le cadre de ma thèse, il y a tout le volet recherche, mais il y a aussi tout le volet action grand public, parce que l'intérêt, à mon sens, de la recherche, c'est qu'elle soit faite par et pour le terrain. Donc, dans ce cadre-là, depuis 2021, je mets en place à la fois des actions de sensibilisation auprès du grand public, mais également auprès des soignants, sur la thématique de l'âgisme. Et je mets également en place des rencontres intergénérationnelles dans différents territoires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est des temps qui sont toujours très riches, où à la fin, quand une personne âgée me dit « je pensais pas qu'un jeune pouvait être si intéressant », et quand j'ai un jeune qui me dit « je pensais pas qu'une personne âgée pouvait encore débattre », là je me dis « bon, c'est bon, c'est gagné ». Et donc ces rencontres intergénérationnelles, c'est des moments... Des moments forts. Il y a depuis notamment la crise Covid, il y a un réel besoin, je pense, pour les générations de se retrouver. On avait mené une étude pendant la crise sur le vécu du confinement par les personnes âgées à domicile, et beaucoup craignaient en fait les impacts de cette crise sur les liens entre les générations à l'avenir. Beaucoup craignaient que ça, parce que c'est vrai que on a parfois pu entendre à la télévision des conflits entre les générations. On opposait les plus jeunes aux plus âgés, les plus jeunes qui disaient c'est à cause des plus âgés qu'on est confinés, certains plus âgés disaient c'est à cause des jeunes, etc. Et dans la population, les plus âgés craignaient qu'en fait à l'avenir ces liens deviennent plus conflictuels en fait. Et donc ces rencontres intergénérationnelles, elles arrivent, je trouvais, au bon moment aussi. Et finalement, ça montre que chaque génération a encore à apporter en fait à l'autre. Et voilà, c'est beau.
Est-ce qu'il y a d'autres envies de partage?
Un mot sur notre projet d'habitat partagé, donc à quatre. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, des retraités aussi, qui n'ont pas pu s'installer dans notre bâtiment parce que c'était trop petit. Puis il y en avait une qui était électro-hypersensible. Et ils ont acheté juste de l'autre côté de la rue. Donc on a une espèce de petit quartier partagé en ce moment. Et c'est pas mal. On s'entraide, on a un poulailler commun, tout ça. Il y a des choses qui se passent.
Merci beaucoup. Je me lance. Ah oui, d'accord. Donc j'essaie je me réessaye encore une fois une petite conclusion synthétique. Donc on nous a bien compris l'intérêt, le besoin et l'envie du changement de regard sur les personnes âgées à travers des nombreux projets que vous avez pu nous partager, qu'ils soient artistiques ou portés par plutôt le milieu associatif et intergénérationnel, avec des objectifs derrière de partage, de transmission, de lien social. Qui soit d'ordre de la cuisine, comme on nous a parlé tout à l'heure, de la mémoire des lieux, de la pratique artistique, et que tous ces projets participent et permettent le dépassement déjà de soi pour chacun, et participent à ce changement de regard. J'aimerais bien retenir cette question de comment on favorise de bonnes conditions pour soigner la qualité des rapports avec les personnes âgées entre nos générations. Comment on se donne les moyens d'avoir cette qualité de rapport entre nous.
Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Et puis on se retrouve pour une dernière table ronde dans un quart d'heure, 20 minutes.
Vivant.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vieillir avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vivant. Vivant.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien.
Camembert à Amber.
Un camembert à Amber.
Oui, un camembert à Amber.
Mais pourquoi j'aurais vu un camembert à Amber?
Je cherche un camembert à Amber.
Ah, mais j'en ai vu moi, un camembert à Amber.
Avez-vous vu un camembert à Amber?
Oui.
Je n'ai jamais vu de camembert à Amber.
Il est sur Radio Super.
Ah, Radio Super, à des camemberts à Amber.